Chapitre 11, un appel. Que puis-je vous dire, mes frères, pour vous réveiller de votre sécurité charnelle? Vos périls m'ont été montrés. Il y a des croyants et des incroyants dans l'Église. Le Christ représente ces deux classes dans la parabole du cep et des sarments. Il exhorte ses disciples en leur disant, « Demeurez en moi, et je demeurerai en vous. » Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez pas non plus, si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi, et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi vous ne pouvez rien faire. Il y a une grande différence entre une prétendue union et une véritable communion avec le Christ, par la foi. Une profession de foi fait entrer les hommes dans l'Église, mais cela ne prouve pas qu'ils aient un rapport vital avec le divin cep. Une règle est donnée, qui permet de distinguer un véritable disciple de ceux qui prétendent suivre le Christ mais qui n'ont aucune foi en lui. La première classe porte des fruits, et l'autre est stérile. Les uns sont souvent soumis aux sécateurs de Dieu, pour qu'ils portent plus de fruits. Les autres, comme des sarments desséchés, seront avant peu séparés du cep. Je désire sincèrement que nos frères et sœurs soient des témoins vivants, et que l'Église soit gardée pure de l'élément incroyant. Pouvons-nous concevoir une union plus étroite, plus intime que celle qui est exposée dans ces mots « Je suis le cep, vous êtes les sarments » Les fibres du sarment sont presque identiques à celles du cep. La vie, la force et la fécondité se communiquent sans obstruction et constamment du cep au sarment. La racine envoie sa sève nourricière dans la branche. Telle est la relation qui existe entre le véritable croyant et le Christ. Il demeure en Christ et tire de lui sa nourriture. Cette relation spirituelle ne peut être établie que par l'exercice de la foi personnelle. Cette foi doit exprimer de notre part une préférence incontestable, une confiance parfaite et une entière consécration. Notre volonté doit être soumise totalement à la volonté divine. Nos sentiments, nos désirs, notre intérêt et notre honneur doivent être identifiés à la prospérité du royaume du Christ et à l'honneur de sa cause. Nous recevons constamment du Sauveur la grâce, et il accepte notre gratitude. Quand cette intimité de rapport et de communion est établie, nos péchés sont déposés aux pieds du Christ, et sa justice nous est imputée. Il a été fait péché pour nous afin que nous puissions être faits justice de Dieu en lui. Nous avons accès à Dieu par lui, nous sommes acceptés dans le bien-aimé. Quiconque, par des actes ou des paroles, offense un enfant de Dieu, blesse Jésus. Et quiconque donne un verre d'eau à un disciple, parce qu'il est un enfant de Dieu, le donne au Christ lui-même. Sur le point d'être séparé de ses disciples, Jésus leur donna ce beau symbole du cep et des sarments pour leur faire comprendre ses relations avec les croyants. Il leur avait parlé de l'union étroite qui devrait exister entre eux et lui et par laquelle ils entretiendraient leur vie spirituelle quand sa présence visible leur serait enlevée. Pour graver cette vérité dans leurs pensées, il leur présenta la vigne comme le symbole le plus frappant et le mieux approprié à leur vie. Les Juifs avaient toujours considéré la vigne comme la plus noble des plantes, le type de tout ce qui était fort, excellent et fructueux. Notre Seigneur semble nous dire, le cep, dont vous vous enorgueillissez si hautement, est un symbole. Je suis la réalité, le vrai cep. En tant que peuple de Dieu vous admirez ce plan, en tant que pécheur, vous devez m'estimer plus que tout ce qui est terrestre. Le sarment ne peut vivre si on le sépare du cep. Vous ne pouvez pas non plus vivre sans demeurer en moi. Le choix d'un endroit convenable. Bien peu de chrétiens se rendent compte de l'importance d'éviter autant que possible toute association hostile à la vie religieuse. Dans le choix de leur entourage, bien peu aussi font de la prospérité spirituelle leur première préoccupation. Les parents s'entassent avec leur famille dans les villes parce qu'ils s'imaginent que la vie y est plus facile qu'à la campagne. Les enfants qui n'ont rien à faire, hors de l'école, s'élevant dans la rue. En fréquentant de mauvais camarades, ils acquièrent des habitudes de vice et de dissipation. Les parents s'en rendent compte, mais pour corriger leur erreur, ils devraient consentir à un sacrifice, ce qu'ils ne sont pas disposés à faire, et Satan s'empare du contrôle total de leurs enfants. Mieux vaut sacrifier toute considération mondaine que de mettre en péril les précieuses âmes qui vous sont confiées. Celles-ci sont assaillies par les tentations. Il faut leur montrer de quelle manière on peut les affronter. Votre devoir est d'éloigner toute influence, toute coutume qui vous empêcherait de vous abandonner volontairement, loyalement et avec sincérité à Dieu, vous et votre famille. Fuyez la cohue des villes et cherchez à vous fixer dans quelque lieu retiré où vos enfants seront, autant que possible, à l'abri de la tentation. Et là, préparez-les en vue d'une vie utile. Le prophète Ézéchiel énumérait ainsi les causes qui conduisirent Sodome au péché et aboutirent à sa destruction. Elle avait de l'orgueil, elle vivait dans l'abondance et dans une insouciante sécurité, elle et ses filles, et elle ne soutenait pas la main du malheureux et de l'indigent. Tous ceux qui veulent échapper au sort de Sodome doivent éviter la voie qui attira les jugements de Dieu sur cette cité méchante. Mes frères, vous méprisez les droits les plus sacrés de Dieu en négligeant de vous consacrer à lui avec vos enfants. Beaucoup d'entre vous se reposent dans une sécurité trompeuse, absorbés par des intérêts égoïstes et attirés par les richesses terrestres. Vous ne craignez aucun mal, le danger semble bien loin de vous. Mais, à moins que vous ne vous réveilliez et que vous ne retourniez au Seigneur, repentant et profondément humilié, vous serez trompé, déçu pour votre ruine éternelle. À maintes reprises, la voix du ciel s'est fait entendre à vous. Lui obéirez-vous? Suivrez-vous le conseil du témoin fidèle? Chercherez-vous l'or éprouvé par le feu, les vêtements blancs et le collier pour vos yeux? L'or, c'est la foi et l'amour. Les vêtements blancs représentent la justice du Christ et le collier, le discernement spirituel qui vous rend capable de voir et d'éviter les piges du malin, de détecter le péché et de le haïr, de voir la vérité et de lui obéir. La léthargie mortelle du monde paralyse vos sens. Le péché ne vous apparaît plus repoussant parce que Satan vous a aveuglé. Les jugements de Dieu vont bientôt être déversés sur les habitants de la terre, sauf toi, pour ta vie. Tel est l'avertissement des anges de Dieu. D'autres voix encore se font entendre, n'ayez pas peur, il n'y a pas lieu de s'alarmer. Ceux qui vivent à l'aise dans les murs de Sion crient, paix et sûreté. Tandis que le ciel déclare que la destruction va fondre sur les transgresseurs. La jeunesse, les gens frivoles, les amateurs de plaisir considèrent ces avertissements comme des contes de vieilles femmes, et ils les repoussent avec mépris. Les parents sont enclins à croire que leurs enfants n'ont rien à se reprocher, et tous s'endorment tranquillement. Il en était ainsi lors de la destruction de l'ancien monde quand les villes de Sodome et de Gomorrhe furent exterminées par le feu. La veille de leur ruine, les villes de la plaine se livraient à leurs orgies. Lot se vit nargué à cause de ses craintes et des avertissements qu'il avait donnés. Mais ce furent ses moqueurs qui périrent dans les flammes. Cette nuit-là, la porte de la miséricorde fut fermée à tout jamais devant les habitants pervers de Sodome. C'est Dieu qui tient dans ses mains la destinée des âmes. On ne se moquera pas toujours de lui. On ne pourra pas toujours le prendre à la légère. Déjà ses jugements s'exercent sur la terre. Des tempêtes terribles et redoutables sèment la ruine et la mort sur leur passage, d'épouvantables incendies ravagent les forêts et les cités populeuses, de terribles tempêtes et des naufrages assaillent ceux qui voguent sur les mers, des accidents, des calamités menacent tous ceux qui parcourent la terre, les cyclones, les tremblements de terre, l'épée et la famine se succédant à une cadence folle. Et pourtant le cours des hommes s'endurcit. Ceux-ci ne veulent pas reconnaître la voix de Dieu. Ils ne cherchent pas le refuge qui les mettrait à l'abri de l'orage qui s'amoncelle. Beaucoup de ceux qui ont été placés sur les murailles de Sion pour surveiller d'un œil d'aigle l'arrivée du danger et donner le signal d'alarme se sont eux-mêmes endormis. Ceux qui devraient être les plus actifs et les plus vigilants à ces heures de péril négligeant leurs devoirs et se rendent responsables du sang des âmes. Vous n'accordez pas à vos enfants le soin et l'encouragement dont ils ont besoin. Vous ne les unissez pas à vos cours par les plus doux liens de l'amour. Vos affaires absorbent à tel point votre temps et vos énergies que vous négligez vos devoirs familiaux. Mais vous vous êtes si bien habitué à ce genre de vie qu'il vous est difficile de le changer. Si vous pouviez le faire, votre intérêt spirituel y gagnerait et ce serait le bonheur et le bien-être moral de vos enfants. Il serait bon pour vous de laisser de côté vos causes de soucis, et de vous retirer à la campagne où l'influence corruptrice exercée sur la jeunesse est moins forte. En réalité, vous n'y seriez pas tout à fait à l'abri des contrariétés et des soucis, mais vous éviteriez bien des dangers, et vous fermeriez la porte à une foule de tentations qui risquent de perdre vos enfants. Ceux-ci ont besoin d'occupation et de changement. La monotonie du foyer les rend désagréables et nerveux. À la ville, ils prennent l'habitude de fréquenter des camarades vicieux, et c'est dans la rue qu'ils recoivent leur éducation.